si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develay-Mazurel, Laure Alary.
27 août, au cœur de l'Afrique, les Français ont entendu l'appel. Grâce à eux, des territoires de l'Empire viennent de rentrer dans la lutte. Le général de Gaulle annonce cette nouvelle à la France.
Bonjour à tous. Alors que la France célèbre cette année les 80 ans de l'appel du 18 juin et le Congo les 80 ans du manifeste de Brazzaville, on vous emmène cette semaine justement à Brazzaville. Brazzaville, capitale du Congo, mais aussi de la France libre. Car oui, dès le mois d'août 1940, la résistance s'est organisée au départ depuis le continent noir. Et certainement, le destin de la France n'aurait pas été le même sans le ralliement des Africains alors colonisés. À l'époque, au sortir de l'armistice signé par Pétain avec les Allemands, Vichy tient Dakar et les colonies de l'Afrique occidentale française. Reste alors l'AEF, ou Afrique équatoriale française, qui très tôt va répondre à l'appel lancé le 18 juin par le général de Gaulle à l'Empire. Récemment, à Brazzaville, un colloque international s'est tenu sous l'égide de la présidence congolaise avec l'ambassade de France et la fondation de Gaulle afin de rappeler cette histoire, mais aussi d'honorer cette mémoire encore présente dans la cité de Brazzaville. Parce qu'avant le béret, du maquisard, savoyard, la résistance a porté la chéchilla rouge, Raphaël Constant est allé voir ça de plus près, pour nous, à Brazzaville. Première étape, un lieu emblématique, sur la corniche, face au fleuve Congo, en compagnie d'un historien français qui a longuement travaillé sur les tirailleurs africains.
Éric Deroux, on est devant la case de Gaulle, dans les jardins, lieu emblématique de Brazzaville, dite capitale de la France libre.
Oui, nous sommes devant la case de Gaulle, qui est aujourd'hui la résidence de l'ambassadeur de France à Brazzaville. C'est un lieu qui est emblématique à divers titres. D'abord parce que c'est un endroit qu'on a créé spécialement pour le général de Gaulle pendant la guerre. Et puis parce qu'il incarne aussi la modernité qui est donnée à Brazzaville, capitale de la France libre. C'est un petit peu comme si on avait reconstitué un palais présidentiel sur le bord du fleuve Congo, à des milliers de kilomètres de Paris, pour incarner une France qui continuait à résister.
Comment on pourrait décrire cet endroit ?
L'endroit est super d'abord parce qu'il y a une architecture très très particulière de ces années 40, c'est-à-dire qu'on commence à utiliser du béton, on est passé de la vieille architecture coloniale dans laquelle le vent circulait dans des couloirs, dans des claies en bois, une architecture en béton avec des claustras qui laissent également passer l'air, avec une utilisation de cette pierre du Congo qu'on appelle la pierre du fleuve, qui est super, une sorte de granit. C'est vraiment un endroit dans lequel on a voulu mettre le meilleur du savoir-faire français à ce moment-là, parce que c'est un endroit qui devait incarner à la fois à la taille du général de Gaulle, au propre et au figuré, mais qui incarnait la continuité de la France. Et je crois qu'aujourd'hui, Brazzaville, qui reste une ville importante dans l'esprit et dans la mémoire des Français, cette case de Gaulle, elle est centrale dans cette histoire. De Gaulle vient à Brazzaville parce qu'il a besoin d'une terre française. Quand il est à Londres, où il n'est rien, à Londres, c'est un général de brigade à titre temporaire, qu'en plus le gouvernement français ne reconnaît plus. Pour De Gaulle, c'est Pétain qui est illégitime. Pétain s'est déchu en demandant une suspension des combats alors qu'on pouvait les continuer, mais lui les continue. Et les continue en France, parce que pour lui, l'Afrique, l'Empire, c'est la France. Et c'est d'ailleurs extrêmement paradoxal, parce que De Gaulle n'est absolument pas un colonial. Vous savez que l'armée française, jusqu'à une date récente d'ailleurs, était partagée entre les officiers qui faisaient carrière en Europe et puis une poignée d'officiers qui pendant longtemps sont passés pour des types un peu déclassés, qui étaient les coloniaux. De Gaulle est un Européen, c'est un officier d'infanterie. Les colonies, il n'y a jamais servi.
Donc il ne connaît pas l'Afrique.
Il ne connaît pas l'Afrique. Mais ce qui est formidable chez De Gaulle, il a d'emblée, dès 1940, alors que ce n'est pas un colonial, une vision globale du monde qui lui permet de comprendre qu'il sera légitime sur une colonie française. Et c'est là que va se faire conjointement le ralliement du gouverneur Eboué avec son directeur de cabinet, gouverneur du Tchad. Quand il se rallie fin août, il n'y a pas encore eu l'échec de Dakar. Il sait que De Gaulle veut débarquer à Dakar. Donc ça le conforte dans l'idée que tout le continent africain, subsahélien, peut basculer.
Donc le Tchad rallie le général de Gaulle, puis le Cameroun, oui. L'Oubangui-Chari, aujourd'hui Centrafrique, et enfin le Gabon, et finalement le Congo. Et le général de Gaulle va choisir d'installer sa capitale, la capitale de la France libre, à Brazzaville. Pourquoi à Brazzaville, au Congo ?
De Gaulle choisit Brazzaville comme capitale de la France libre, d'abord parce que Brazzaville est la capitale de l'Afrique équatoriale française. C'est-à-dire qu'il y a déjà à Brazzaville les infrastructures. Il y a des services de l'intendance militaire extrêmement importantes. Il y a un service de santé, une radio, c'est très important pour lui. Il sait aussi que c'est central, il y a le fleuve, qu'en face, il y a Léopoldville. Donc voilà, toutes les raisons qui font que techniquement, c'est Brazzaville.
Le poste national français de Brazzaville vous parle.
Marielle Fadengoma, correspondant des dépêches de Brazzaville à Paris.
Vous êtes congolais et vous connaissez donc bien la ville de Brazzaville. Marie-Alfred, comment c'était à l'époque ?
La ville était agencée, on avait l'entrée du sud où les gens qui venaient donc de l'exode rural du sud venaient s'installer à Bakongo. Bakongo, là où il y a eu justement l'aéroport, où le général de Gaulle avait débarqué à Brazzaville.
Le 24 octobre 1940.
Exact. Et donc, l'avenue Matsua, l'actuelle avenue Matsua, servait de piste. Ceux qui venaient du nord s'installaient du côté de Poto-Poto, donc on avait déjà la cartographie de la ville.
Et qu'est-ce que ça a changé alors à Brazzaville, l'arrivée du gouvernement de la France libre ? Comment ça a été perçu ? Comment ça a été accueilli ?
Tout de suite, quand le général de Gaulle est arrivé ici, ça a changé. Il n'y avait rien en dur. C'était des cases de l'époque. Et on a vu fleurir des bâtiments. La case de Gaulle, bien sûr, le stade Félix Eboué, à côté, la cathédrale Sainte-Anne, parce qu'il fallait juste avoir la configuration où les gens s'amusaient, où le général de Gaulle pouvait réunir les troupes. Et à côté, il fallait rappeler que nous sommes chrétiens, il faut aller prier parce que le bon Dieu, le blanc, qui à cette époque-là, qui incarnait presque Dieu, il fallait le remercier le dimanche. Il fallait être pieux. Au milieu, c'était tous les colons. Et il faut redonner les mots de l'époque. Les indigènes étaient dans la périphérie. Et ce qu'il faut noter aussi dans la cartographie de la ville, à l'entrée de la ville sud, il y a un camp de la gendarmerie. À la sortie nord de la ville, il y a aussi un camp militaire. De telle sorte que si les indigènes qui veulent venir du sud ou du nord veulent rentrer dans la ville, les blancs sont protégés. Donc vous voyez bien que la mairie est au milieu. La résidence du gouverneur, presque en biais de l'entrée de Bakongo. La case de Gaulle à Bakongo. Et tout ça parce que justement les gens voulaient travailler avec les gens du sud parce que c'était eux qui correspondaient le mieux à ce que le colon attendait.
Et pourquoi les gens du sud ?
Les gens du sud parce que très simplement, tous les cadres de l'armée étaient les gens du sud. Ils se sont vite adaptés avec le Morse. Tout ce qui était vraiment télégraphique dans l'armée, il fallait bien des techniciens sur place pour relayer le message.
Donc ça veut dire qu'il y avait déjà une ségrégation qui était imposée par les normes coloniales. Il y avait aussi une ségrégation ethnique ou d'origine ?
Le colon a travaillé dans ce sens-là, en repérant l'ethnie qui était supposée à l'époque forte, qui s'adaptait le plus à parler français. Par exemple, les gens du sud, à l'époque, parlaient comme le petit français, comme on dit. C'était du séparatisme aussi, effectivement. Mais il faut remettre, une fois de plus, dans leur contexte. C'est l'époque qui voulait ça. Il fallait voir comment les populations de Brazzaville accueillaient le général de Gaulle tout en liesse. Il disait que Brazzaville ressemblait à un théâtre. Un théâtre parce que tout simplement, c'était de la représentation.
Il fallait montrer que le gouvernement était installé.
Voilà. Il fallait montrer que la colonisation n'avait pas son côté négatif. Il fallait montrer les liesses. Et c'était un peuple qui dansait. Et quand le peuple danse, tout se passe bien.
Là, nous sommes au Centre national des archives et de la documentation, donc le nouveau site. Ce bâtiment, donc, c'est une ancienne villa résidentielle qui a été transformée pour pouvoir abriter donc, les archives, puisque aujourd'hui, Brazzaville est détenteur des archives de l'Afrique équatoriale française et nous sommes au cœur vraiment du Brazzaville administratif. Je suis Assim Talbou Kambou, documentariste congolais, donc président de la Maison des archives Congo.
Pourquoi c'est important pour vous de sauvegarder cette mémoire ? autour de Brazzaville, capitale de la France libre.
L'histoire coloniale, ça fait partie de notre histoire. Et pour nous, il faut aussi la raconter, pas seulement celle de De Gaulle, mais c'est également celle des résistants congolais, africains, qui ont œuvré, qui sont battus aux côtés des Européens pour pouvoir libérer la France de l'Allemagne nazie. Cette histoire est mal enseignée à l'école. Moi, je suis né dans les années 70. Hein. J'appartiens à la génération qui vient 10 ans après les indépendances. Donc cette histoire nous a pas été enseignée. Et quand elle a été enseignée, elle a été mal enseignée. C'est-à-dire que nos parents, nos professeurs ont regurgité tout simplement l'histoire qu'ils avaient appris à l'école, l'école du colon. Donc l'école du colon faisait la part belle à De Brazza, à De Gaulle, etc., etc. Pour nous, en tant qu'Africains, tout simplement, c'est faire connaître cette histoire partagée et qu'on puisse raconter la véritable histoire, l'histoire qui est faite de pages glorieuses mais aussi sombres.
On monte les quelques marches. Je vous suis.
On va faire les présentations. Donc ici, vous êtes dans la salle principale donc de lecture. Parmi nous, vous avez une dame qui œuvre beaucoup pour la conservation des archives, Madame Tsumou.
Et bonjour.
Qui va vous présenter donc sommairement donc le travail en cours et quelques archives sur De Gaulle.
Au magasin.
C'est vous qui me faites visiter. Donc on rentre dans une pièce où il y a une trentaine d'étagères avec des dossiers.
Là, à ma gauche, vous avez là le fonds du gouvernement général. On prend la boîte GGE 324.
Alors, vous avez donc deux, trois grosses chemises dont le papier est un peu jauni, fatigué par le temps. Et c'est écrit De Gaulle arrivé.
Et décision, 1940-1941. Voilà. Les hommages et les félicitations. Là, nous avons des télégrammes.
Il y a effectivement, ici, vous avez des documents en manuscrit, mais vous avez également des documents tapés à la machine.
Alors, parmi les documents que vous venez de sortir, il y a le manifeste de Brazzaville. Bon, sur du papier, je vous à peine le toucher, qui est très fin, déchiré. Et donc, sur deux pages, est tapé à la machine le manifeste qui va donc installer De Gaulle à Brazzaville en tant que gouverneur de la France libre.
C'est bien ça.
Là, par exemple, nous avons une ordonnance, ordonnance numéro 2.
En fait, cette ordonnance, c'est une des bases...
Du premier gouvernement ici.
Du gouvernement de la France libre à Brazzaville, puisqu'il instaure le Conseil de défense et donc donne la légitimité au gouvernement de la France libre de Gaulle qui s'installe dans l'Empire.
C'est bien ça. C'est daté en plus, fait à Brazzaville le 27 octobre 1940, signé De Gaulle.
Et donc c'est même signé de la main de Gaulle.
C'est bien ça.
L'ennemi a cru que par l'abominable armistice, il en avait fini avec la France. L'ennemi s'est trompé. Dans le monde, des gens se sont imaginés que la France ne se battrait plus. Ces gens ont commis une erreur. Les Français du Tchad viennent d'en donner la preuve. Spontanément, ces hommes droits, ces hommes fins, ces hommes braves reprennent leurs armes et vont au combat. J'ai des raisons de penser qu'en demeurant présente à la bataille, la France sera présente à la victoire.
Alors, c'est extrêmement important la radio, le rôle que joue la radio. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque la télévision n'existe pas et qu'à l'époque la radio joue le rôle d'un média de masse. Les gens écoutent tous la radio. Et par conséquent, Radio Brazzaville va prendre une importance décisive. Alors elle va monter en puissance. Au début, il y a deux petits émetteurs. On va bricoler, on va récupérer les techniciens, on va former les Africains. Parce que cette radio, elle a un double rôle. À la fois transmettre la voix de la France libre et en même temps écouter les nouvelles du monde. On voit bien que l'obsession des gens pendant la guerre en France, c'est les nouvelles. On n'en a pas. Celles qu'on a, on sait qu'elles sont fausses parce qu'on accorde assez peu de crédit aux informations allemandes. Radio de Vichy, on ne sait pas très bien. Donc tout d'un coup, avoir un poste qui, depuis l'Afrique, dit d'une part l'Afrique est restée française libre, en Afrique on n'a pas baissé les bras, on a continué le combat, et qui donne des informations sur les défaites allemandes en Russie, sur le fait que les États-Unis soient entrés dans la guerre, etc., etc., c'est un rôle énorme, non seulement sur le plan de l'information, mais du moral. Et c'est ça qui est intéressant avec Brazzaville, et ça nous amène, je crois, pour moi, une partie extrêmement importante, c'est que l'histoire, elle est à la fois faite de réalités factuelles, mais est aussi faite, je dirais, de propagation d'ondes mythologiques, qui ne sont pas des faits, qui ne sont pas des décisions politiques, mais qui sont des décisions, je dirais, de propagande. Aujourd'hui, le mot propagande a pris une connotation péjorative, à l'époque, ça ne l'a pas. On fait de la propagande, c'est-à-dire qu'on communique.
Vous allez entendre M. Eboué, gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. Il est bon, de temps à autre, que nous nous réflexions devant les vérités essentielles qui nous ont fait agir en 1940 et qui, depuis lors, ont continué de nous animer. Cet examen confirmera, avec la clarté de notre esprit, la fidélité de notre cœur et la vigueur de notre énergie. À Sarlami comme à Brazzaville,
pour les populations de l'époque, effectivement, vichistes, angolistes, ça ne veut rien du tout dire. Hein. Donc pour nous, nous avons affaire à des Européens, à des Blancs qui nous occupent. Et puis bon, donc les gens ne se sentent pas concernés en tant que tels. Après, effectivement, ce qui va frapper les imaginations, c'est l'arrivée d'un gouverneur noir, Félix Eboué. Donc il y avait des choses qui commençaient à changer.
Parce que Félix Eboué était guyanais.
Exactement, il était d'origine guyanaise. Et donc, on se dit qu'effectivement, il y a un électrochoc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et Félix Eboué, effectivement, va s'employer avec un tel génie politique, parce qu'il fallait tout simplement rallier toutes les populations locales. Donc, en gros, dealer quelque chose en faisant comprendre aux populations qu'il y a un effort de guerre à fournir et qu'au lendemain de ce conflit, tous les méfaits de la colonisation allaient être revus, on allait écrire une nouvelle page, tous ensemble, et qu'il fallait pour l'instant, comment dire, tous se rassembler autour donc, de cette personne qui était le général de Gaulle.
C'est ce qui est présenté en 1940, quand le général de Gaulle choisit Brazzaville comme sa capitale.
Alors, ici, on sait que l'histoire s'accélère assez vite. Parce que nous avons effectivement quelques officiers, l'Armina et d'autres. Hein. Donc une fois qu'ils sont installés, ils demandent donc aux administrateurs qui sont en place, tout simplement, de faire allégeance au nouveau pouvoir incarné par De Gaulle. Et vous imaginez bien pour les administrateurs de l'époque, ce qu'on appelait les clercs, on les appelait les calacas chez nous. Écoutez, avoir un nouveau patron, un noir, au-dessus on savait qu'il y avait De Gaulle, mais il y avait un noir bien visible. Bon, il y a des choses qui vont se dessiner. On ne sait pas encore quoi. Mais on va écouter De Gaulle.
Et est-ce qu'on écoute De Gaulle, justement ?
On écoute De Gaulle parce que là, effectivement, l'image, radio-trottoir, comme on dit, dit que c'est quelqu'un qui résiste. Et ça fait écho également aux personnes qui résistent contre le pouvoir colonial. Après, il y a toute la propagande qui va être menée par la suite pour le présenter comme un résistant, non seulement à l'oppression allemande, donc au racisme, etc. Bon. Mais le fait que ce soit un militaire à un uniforme, bon, ça parlait déjà à beaucoup de militaires, parce que c'était une question de bravoure, quelqu'un qui tient tête, qui n'a pas peur, qui va à l'affrontement. Et le côté résistance, c'est lui aussi les Congolais, les militaires comme les civils.
Alors, le rôle des Africains dans la France libre est essentiel sur trois plans. Le premier, c'est un plan politique. Ensuite, sur le plan militaire, il faut bien voir que De Gaulle ne dispose que d'une poignée d'hommes. À Londres, ils sont à peine quelques dizaines de milliers, environ 20 000, même pas, qui l'ont rallié, qui ne savent pas très bien d'ailleurs comment continuer la guerre. L'Afrique équatoriale française va lui apporter l'équivalent de plusieurs dizaines de bataillons, qu'on appelle des bataillons de marche à l'époque, de tirailleurs, qui sont un appui non négligeable pour un homme qui n'a rien. Hein. Une fois de plus, le général de Gaulle, c'est un homme qui est nu. Et dès l'hiver 39-40, les troupes coloniales vont publier des journaux, des dessins, des caricatures, pour expliquer aux tirailleurs, dans une façon extrêmement simple, ça y a bon, ça y a pas bon. C'est le langage du moyadi, qu'on a beaucoup critiqué, mais qui en fait faut le comprendre comme un système de diffusion d'une langue. Imaginez que parfois dans certains bataillons de tirailleurs, il y avait 20 ethnies différentes. Et donc il y avait un moyen terme qui s'appelait le moyadi, moi j'ai dit, Et donc on va publier des petits journaux, on va publier des petits bulletins, des petites affichettes, avec « Hitler a dit, les Noirs sont des sous-hommes, je vais tous les tuer. La France a dit, je vais protéger les Africains parce que ce sont nos frères. » Donc il y a quand même un véritable effort pour donner une sorte de conscience politique aux tirailleurs, pour leur expliquer que ben, si Hitler gagne, ça va être très très mauvais pour les Africains. Je crois que c'est très important parce que ça explique que certains cadres, ce qu'on appelle les petits cadres à l'époque, sont quand même conscients des enjeux de la guerre. Et que le fait que la France continue le combat avec eux, c'est tout de même à terme la promesse de certaines évolutions pour eux.
Alors il y a une part de la propagande donc, qui touche les Africains. Il y a des Africains qui effectivement se rallient, s'enrôlent volontairement. Mais il y a aussi toute une campagne d'enrôlement qui n'est pas volontaire.
Alors l'enrôlement est une question centrale. Ce recrutement se fait-il par la contrainte, la force, des promesses ? C'est un mélange. Que peut savoir un jeune homme de 18 ou 20 ans qui est dans un village de la forêt, ou un village au bord du fleuve, un village de pêcheurs, quand son chef traditionnel, son chef, et l'autorité est importante, vient le voir en lui disant « Le blanc, là, il dit qu'il faut que tu partes. Si tu pars, tu auras un bel uniforme, tu auras une prime, etc. » Quels sont les moyens de résister ou de comprendre dans quoi on l'engage ? Aucun. Donc c'est extrêmement équivoque, le système de recrutement.
Il y a aussi une perspective de carrière.
Et puis, il y a également, j'y venais, une perspective de carrière, surtout avant-guerre. Hein, et il y a des tas de livrets qui ont été publiés à destination des cadres européens en disant « Expliquez bien à vos tirailleurs qu'ils auront une prime de démobilisation et qu'une fois dans leur village, ils seront les porteurs de la France. S'ils ont des médailles, eh bien, ils incarneront la France. Et c'est grâce à eux qu'on pourra petit à petit les convaincre des bienfaits de la civilisation. Et ça restera jusqu'au bout des alliés fidèles de la France. » Donc cette idée que le tirailleur doit aussi devenir un porte-parole de la grandeur de la France.
Et donc ici, à Brazzaville, comment s'organise cette première résistance ?
Il y a un particularisme ici au Congo, c'est que le Congo est un pays qui a été évangélisé assez tôt et qui par conséquent dispose d'une population beaucoup plus alphabétisée que le Tchad ou l'Oubangui-Chari.
La Centrafrique aujourd'hui.
Sur le plan militaire, les Congolais servent dans des unités qui ne payent pas de mine mais qui sont déterminantes dans la gestion des armées, qui sont ce qu'on appelle les services, l'administration, l'intendance, le matériel, le service de santé, le génie, les mécaniciens, les conducteurs de véhicules. Ils sont extrêmement précieux à l'effort de guerre. De 1940 à 1942, on a recruté une vingtaine de bataillons de marche. On estime environ 30 000 le nombre de tirailleurs qui ont été recrutés dans cette zone-là. Ensuite, ça va doubler avec l'AOF, on va passer à 60 000, puis environ à 70 000.
Tout de suite sur RFI, on écoute les mamans du Congo et Robin.
Bakanini wonda mpe bakanini mamba masempi muluzingulwani ankala waibu kotele waubunze kamekaka nsabula kwani nkale ankala nsabula mubungu mpashiji yogele nsabula Luka ya ntabule Menzo lolo natula
Si loin, si proche Voyage sur RFI
De Gaulle, c'est peut-être pour moi le père de la décolonisation. Parce que c'est lui qui a mené la résistance et c'est grâce à lui que Brazzaville est, ou encore a été nommée, la capitale de la France libre.
Je me souviens, à l'école, nous avions fait la paix du général de Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était désigné aux combattants de poursuivre la guerre jusqu'à la fin. Il a fait de Brazzaville ce que le Brazzaville est maintenant. Il nous a conduits jusqu'à la décolonisation. Il était là comme un père qui soutient ses enfants, c'est ce que je peux dire un peu.
Et ça, c'est ce qu'on vous apprend à l'école?
Si, 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 si.
J'ai appris que non, le général de Gaulle est en fait, mythologiquement, il est toujours comme un dieu. Les Africains s'intéressent à son histoire.
Entre histoire et mémoire, mythes et réalités, on voyage toujours cette semaine à Brazzaville, capitale de la France libre, avec Raphaël Constant parti interroger jusqu'aux abords des lycées ce qu'il reste finalement dans l'imaginaire congolais de ces temps troublés et héroïques, en pleine guerre mondiale, sur fond de colonisation bien sûr. Dans cet étonnant creuset de la libération, la figure de De Gaulle, on l'a entendu, prend encore aujourd'hui beaucoup de place, incarnant à la fois la résistance et la décolonisation. Pourtant, le général français était loin d'être un décolonisateur. Il n'empêche, à Brazzaville, l'homme a marqué les lieux et les esprits, car Brazzaville a été un temps son refuge. En parallèle, à l'époque, dès 1942, les Français, appuyés des alliés, vont tenter une percée en Afrique du Nord, théâtre alors d'âpres combats. Pendant que la résistance intérieure, elle, faite d'innombrables réseaux combattants, se rassemble sur le sol français sous la houlette de Jean Moulin. Désormais en ordre de bataille, la résistance tisse sa toile. Et à Brazzaville, comme ailleurs, tout cela se fait au prix de lourds sacrifices, pour les civils notamment. Scolastique Diazanga est historienne congolaise et elle a travaillé sur le rôle des femmes dans cet effort de guerre.
J'ai regardé l'impact de cette période sur la condition des femmes. Je me suis rendu compte que à Brazzaville, il y a les Européennes d'un côté, il y a les femmes indigènes de l'autre. Les deux catégories ne se retrouvent pas vraiment pour pouvoir apporter leur contribution à la cause de libération de la France. L'engagement des femmes européennes, c'est un choix. Mais du côté des femmes indigènes, c'est la contrainte. Les miliciens sont là. On dit il faut apporter tant de tonnes de caoutchouc, donc elles vont travailler sous la contrainte pour atteindre cette quantité et la livrer.
Le caoutchouc était utilisé pour le matériel de guerre, notamment les pneus des camions, etc. Et il y a une demande qui a explosé à partir de 40-42.
Oui, c'est une matière première stratégique dans le contexte de la guerre. Et donc, c'était aux populations de l'Afrique d'aller collecter des racines, certaines plantes. Et c'était un travail très pénible pour avoir des boules de caoutchouc. Voilà. Ces populations étaient habituées à ce travail forcé, hein, même nettoyer les pistes, les rendre accessibles. Il y a le portage des produits de l'administration coloniale de tel endroit à tel autre. Bon, donc le travail forcé a toujours été une pratique dans le processus de gestion de la colonie. Il y a eu des moments où les populations ont cherché à ne pas obéir aux ordres de l'administration coloniale. Mais évidemment, dans ce cas, bon, c'est la répression. Même payer l'impôt, c'est sous la contrainte.
Vous parlez de l'impôt, en fait, ça a été une des décisions du gouvernement de la France libre, c'est d'imposer un impôt aux populations locales pour participer à l'effort de guerre.
L'impôt, c'est depuis très tôt, hein, dès le début du XXe siècle qu'on impose l'impôt. Mais là, c'est l'impôt de 3 francs imposé sous le gouverneur général Eboué. Les populations vont se révolter et ce mouvement sera réprimé sévèrement au point où aujourd'hui on a à Bakongo une avenue qui a été baptisée Avenue des 3 francs.
Makambo, soki pena moi, soki na tongo, soki na pokwa.
Zambeo, mokili eko na makambo, mikambo eko ya nani ya yemi.
Soki lero nozuo liya, mopomba ndambwe, oye koya lobi, toye bitevo.
Zambeo, mokili eko na makambo, mikambo eko ya nani ya yemi.
Je m'appelle Clotaire, mais si maintenant je suis historien, enseignant-chercheur à l'Université Omar Bongo de Libreville.
Est-ce qu'il existe un mythe de Gaulle en Afrique ?
Il n'existe pas un mythe, il existe des mythes. Et l'ensemble de ces mythes forment le mythe gaullien. Il existe des imaginaires qui ont été construits par les colonisés, pas par les élites, mais par les populations. C'est ce qui est encore plus intéressant à souligner ici. Par exemple, chez les Fang du Gabon, il y a une danse qu'ils appellent le Gaulle, qui a vocation justement à se servir de la figure de Gaulle pour vanter sa bravoure, pour vanter son nourrisme lors de la Seconde Guerre mondiale. Et cela a justifié la mise en place d'une danse.
Et à quoi elle ressemblait, cette danse ? Vous avez eu accès à des archives, vidéos notamment ?
Cette danse a étonné un peu les administrateurs au départ. Hein. C'était stupéfait, dit, mais c'est quoi cette danse ? Est-ce que c'est pas un rite qui cale quelque chose ? Donc du coup, ça a suscité des enquêtes. Hein. C'est très amusant quand vous parcourez les archives, de voir un peu la réaction des administrateurs qui comprennent pas ce qui se passe et qui du coup se méfient, disent, ah, est-ce que c'est pas un truc dangereux ? Qu'est-ce qu'il cache là-bas ? Est-ce que c'est pas une autre secte avec un fétiche et ainsi de suite ? Donc, alors qu'en réalité, il y avait rien de tout ça. Il y avait rien de tout ça. Les adeptes ont insisté sur le fait que la danse devait être très réglementée. Il devait y avoir un ordre, il devait régner une discipline. On vient à la piste de danse bien habillée, on danse selon le signal du maître de cérémonie, on danse avec une cavalière, c'est obligatoire. Les gens qui ne respectent pas les consignes sont sanctionnés. Voilà. On dit, oh, tu as l'amende. Ah, amende, oui, va au bureau de la police. Vous voyez, donc il y a un mélange entre effectivement l'administration coloniale qui effectivement la réception que les populations font. Et, mais en même temps, dans cette espèce d'ironie, de théâtre, on représente aussi les Africains qui sont en train de s'amuser, qui manifestent cette envie, ce désir de se défouler. Voilà. Ces réappropriations témoignent d'abord de la manière dont ces peuples autochtones colonisés en situation coloniale ont reçu ces événements et dont ces acteurs porteurs de ces événements. C'est très important.
Ensuite, c'est une façon de réagir ?
Bien sûr, c'est une réaction. Deuxièmement, cette réappropriation de Gaulle signifie aussi pour ces peuples la recherche d'une conciliation avec le colonisateur. Parce que les colonisés sont en position inférieure, en position de dominer. Ils sont dominés culturellement, ils sont dominés au niveau des religions, ils sont dominés politiquement. Et donc, ces populations entendent s'adapter à l'ordre colonial en trouvant des stratégies autres que militaires pour garder une authenticité africaine. Et ces sociétés, dans cette intelligence humaine, ont su savamment mis en œuvre, ont su savamment mélanger cette préoccupation autochtone avec des éléments extérieurs comme de Gaulle pour rejouer la relation avec le colonisateur.
Moi, c'est Bruce Okandé, alias Amokashi.
Moi, c'est Gamona Itumba, alias Deboul.
Vous êtes des membres de l'association de SAP, de la République de la France Libre.
Ok, ça. Lui-même, le président n'est pas encore arrivé, mais il doit être quelque part. Qui a le crédit là pour appeler le président Yves ?
Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Président, vous attendez. Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Ben, je vais me présenter. Je suis monsieur Ngationgo Yves, alias Yves Saint-Laurent.
Ce qu'il faut expliquer, c'est que vous êtes magnifiquement habillé. Vous avez un costume trois pièces. Et puis, je vois des médailles aussi accrochées. Voilà. Racontez-moi l'histoire de ce costume.
Voilà. C'est ce qu'on appelle l'habillement hors classe. Chapeau haut de forme, campleur et redingote. J'arbore les couleurs françaises. La première décoration en bleu, blanc, rouge. J'avais été décoré en 1987 lors du premier festival de la SAP à Brazzaville et par l'ambassadeur de France. J'ai également la décoration du souvenir français. C'était en 2007.
Yves Saint-Laurent, expliquez-moi pourquoi votre association s'appelle la République de la France Libre et quel est le rapport avec le général de Gaulle.
La SAP est née pendant la France Libre. Général de Gaulle arrive ici en 1940.
éprouvent les villageois, que pourrais-je dire, les indigènes. De Gaulle était un dandy, très très élégant, bien taillé, c'est pas non seulement lui. Ici on avait des gaullistes, ici on avait des évolués, c'est-à-dire les gens qui travaillaient auprès des blancs. Le blanc n'aime même pas que celui qui travaille à ses côtés soit sale. Il s'habillait avec élégance. C'est pour vous dire qu'ici, on avait quoi ? En ce temps-là, on avait quoi ? On n'avait rien.
Il y a aussi un autre mouvement, je crois, qui a influencé la naissance de la SAP. C'est les anciens tirailleurs qui allaient combattre en Europe et qui, avec le petit sou qu'on leur payait, rentraient habillés. Voilà. Rentraient s'acheter un costume parce qu'il fallait rentrer fier et propre au Congo.
C'est ça. Effectivement, c'est des gens qui reviennent de l'Europe. C'est ceux-là qui ont amené presque la valeur de ce mouvement. Parce qu'ils ramenaient de là-bas des beaux vêtements. Ils venaient trouver les jeunes ici à moitié nus. Mais ceux qui sont à moitié nus le trouvent extraordinaire. Ils ne peuvent que le suivre. Mais l'exemple, c'est le général de Gaulle. Voilà.
Moi, je vais être habillé comme le général de Gaulle.
Comme il avait une taille. Hein.
Parce qu'il était très grand.
Oui, oui. Il était élégant, élancé, fiereux. Hein. Fiereux.
Et où donc cette conférence devait-elle se réunir, sinon ici, à Brazzaville, qui fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur et de notre indépendance, et qui restera l'exemple du plus méritoire effort français.
Allons en France, la patrie, ce jour de gloire.
Éric Dereau, où est-ce qu'on est ?
Donc nous sommes ici dans un des hauts lieux de la France libre à Brazzaville. Nous sommes devant le CEFRAD, qui à l'origine était le cercle civil de Brazzaville, où se réunissaient les Européens. C'est un bâtiment de la fin des années 30, très typique de cette architecture en béton. Et c'est là que va se tenir la célèbre conférence de Brazzaville, au début de l'année 44, qui va réunir sous la houlette du général de Gaulle, du gouverneur Eboué, une grande partie des membres du gouvernement de la France combattante. Donc c'est quand même un endroit extraordinairement important dans la mémoire, cette fois-ci, de l'histoire de Brazzaville et de la France libre.
On va rentrer.
C'est un endroit qui est intéressant parce qu'il a été beaucoup documenté, il a été filmé en particulier. Il y a des images très émouvantes, évidemment, du général de Gaulle dans cette immense salle, en train de parler. Il a beaucoup changé, hein, les décors ont été transformés. Il est devenu un centre de répétition pour une troupe de théâtre. Hélas, les fondations qui sont au bord du fleuve sont minées par les eaux, donc s'effondrent. On voit bien le fleuve qui a gagné sur les fondations. Tout ça est totalement fermé à l'origine, hein. On voit bien les murs qui s'effondrent. Mais c'est réellement un endroit extraordinaire, émouvant, bien sûr.
En quoi la conférence de Brazzaville qui a eu lieu en janvier 1944, ici à Brazzaville, au CEFRAD, en quoi elle est importante et quel est son contenu surtout ?
La conférence de Brazzaville est importante parce que d'abord elle a été beaucoup voulue par le gouverneur Eboué. N'oublions pas que le gouverneur Eboué est guyanais, c'est un noir, un descendant d'esclaves. Il est partagé entre deux mondes, Eboué. On le sent dans ses écrits, dans ses lettres. Il va essayer de faire évoluer le statut des indigènes, des colonisés. Et cette conférence de Brazzaville va se consacrer à l'avenir, un petit peu, de l'empire colonial français. Elle marque certes la nécessité de rendre hommage à l'effort de guerre qu'ont fourni les peuples africains, elle le dit expressément, mais elle est extrêmement floue sur le calendrier de l'évolution, sur les conditions de l'évolution. On n'entrevoit pas un début de citoyenneté, on pense qu'il y a une évolution nécessaire qui devra se faire un jour, qui d'ailleurs va arriver assez vite, puisqu'en 1946, on va abolir le statut de l'indigénat dans les textes. Hein, dans la réalité, en fait, ça va faire durer très très longtemps. Il y a une réalité coloniale qui va rester pesante pratiquement jusqu'aux indépendances et même au-delà. Mais en tout cas, la conférence Brazzaville, elle amorce quand même un virage, c'est-à-dire que c'est une des premières fois tout de même où dans un discours politique, on se préoccupe un peu de l'avenir de ces colonies.
Éric Dereau, ce qui saute aux yeux quand on arrive dans cette salle, c'est l'état de décrépitude des murs, du sol, des fauteuils. Quand on se retourne et qu'on regarde le fleuve, il n'y a plus de murs. Qu'est-ce que ça veut dire de cette mémoire ? Comment ça se fait ?
Mais Est-ce que ce lieu est emblématique pour les Brazzavillois? Peut-être que si on fait un gros effort de communication auprès des enfants, que si on fait quelque chose d'important, mais qui sera extrêmement onéreux, parce que c'est très cher d'entretenir un bâtiment comme ça, ça rentrera dans les mœurs. S'il n'y a pas une volonté politique d'en faire un lieu important, ça continuera à s'effondrer. Alors, est-ce qu'on a ce rapport à la vieille pierre, à la préservation des pierres, à un lieu, après tout, qui était quand même un lieu de blanc? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est l'heure aujourd'hui de sauver un tel bâtiment? Je ne sais pas, je me pose la question.
À Brazzaville, si la vieille pierre s'écroule, la mémoire, elle, reste. Celle d'une ville capitale de la France libre jusqu'en 1943, date à laquelle l'AOF et l'Afrique du Nord vont rallier De Gaulle. Alger devient alors capitale, en lieu et place de Brazzaville. Après, pour ce qui est du patrimoine, à Brazza comme ailleurs, on le sait, les logiques de conservation ne sont jamais qu'une stricte affaire culturelle. La mémoire est souvent politique et à la veille des élections, organisée en 2020, un colloque sur cette mémoire partagée entre la France et le Congo n'est certainement pas anodin. Allez, tout de suite, on retrouve Raphaël à Bas-Congo sur le Square de Gaulle en compagnie de Bernard Toulier, conservateur général du patrimoine en France. Dans les années 90, il a mené un inventaire patrimonial pour les ministères de la culture congolais et français.
Au moment des indépendances, dans les années 60, Fulbert Youlou et André Malraux vont inaugurer le monument au général de Gaulle. Monument devant lequel nous sommes aujourd'hui.
Qui représente la tête du général de Gaulle.
C'est un élément en bronze fait par Pario. C'est le seul monument, bien sûr, au général de Gaulle dans Brazzaville. Et donc, on va se servir de ce monument pour fêter le premier jour de l'indépendance donc, de Brazzaville. Le monument est consacré au général de Gaulle, mais aux dernières idées de 58 du général de Gaulle. C'est-à-dire pas du tout le manifeste de Brazzaville de 1940, pas du tout non plus la conférence de Brazzaville, mais uniquement l'idée de la communauté chère au général de Gaulle, qu'il ne prenait pas l'indépendance de chaque pays, mais il prenait plutôt une fédération et une communauté entre les pays africain, communauté qui n'aura pas lieu, on va dire, puisque tout de suite les indépendances vont rompre cette idée. C'est la page qui est tournée. Et la deuxième fresque qui est là, où on voit Félix Eboué et le général dans une stature très militaire, en fait, ça rappelle la veille de la conférence de Brazzaville en 44. Donc c'est toute une histoire de la France libre qui est regroupée ici. Je sais qu'elle inspire beaucoup les rares personnes qui font du tourisme et qui viennent ici, les Français notamment. Je ne sais pas si les enfants qui sont dans le lycée qui est juste derrière, on leur apprend cette histoire.
Alors aujourd'hui, l'histoire de la France libre à Brazzaville, évidemment, je dirais, est duale. Elle est à la fois mémorielle et historique. Il est clair qu'aujourd'hui, pour les populations congolaises et pour les populations de l'Afrique centrale, on est en train de se reconstruire une histoire valorisante. Il est clair que avoir fait Brazzaville la capitale de la France libre, ça pose une ville. Ça, je veux dire, en termes de com, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important. Et que les populations qui ont souvent souffert d'un déficit de représentation et même d'un déficit de considération de la part des Français, parce qu'après le colonialisme, il y a quand même eu le post-colonialisme, il y a quand même eu une forme de racisme qui sévit. Il est clair qu'affirmer à la face du monde que Brazzaville, c'était pas n'importe quoi et que les Africains, congolais en tête, ont décidé de lutter contre le nazisme, c'est quelque chose d'important. On est entre la symbolique, entre la préemption symbolique d'une histoire et la création d'une légende, d'une mythologie, mais qui est nécessaire. Tous les peuples ont besoin d'une mythologie pour exister. Alors évidemment, pour les historiens, c'est un peu difficile parfois parce que ça oblige à faire le grand écart. Ça n'existait pas, l'identité coloniale. Des peuples colonisés n'avaient pas d'identité. On leur niait cette identité. Aujourd'hui, reconstruire cette identité à marche forcée, à travers cette histoire, c'est intéressant à observer.
Mais est-ce que cette mémoire coloniale, elle est sensible ici? Est-ce que c'est possible d'en parler? Ou est-ce que c'est encore un peu sous couvert de censure?
Non, je crois que la mémoire coloniale est encore très vive. C'est normal, c'est vrai qu'il y a eu des régions ici, en particulier la Sangha, qui ont été absolument démolies par la colonisation, ça c'est un fait et on ne peut pas le nier. Mais c'est vrai aussi que très souvent on est toujours dans cette étroite passerelle entre le politique, le mémoriel, l'histoire et la science. Quoi.
Alors comment on se souvient de Gaulle à Brazzaville?
C'est presque devenu un personnage surnaturel, de Gaulle. Une sorte d'intercesseur entre les dieux et l'homme. Et donc, pour les Congolais, il y a, je crois, un respect de De Gaulle qui est absolument énorme, hein, énorme. Bon, on n'essaye pas du tout de savoir, au fond, de quoi il était fait. Quoi.
De Gaulle va frapper l'imaginaire africain, inévitablement. Les Africains l'ont vu comme vraiment un homme exceptionnel, entre guillemets. Il n'y a qu'à voir le nombre de rues qui portent le nom du général de Gaulle hein, en Afrique. Ici à Brazzaville, la pointe noire, la principale avenue, c'est l'avenue Charles de Gaulle.
Est-ce qu'il existe à Brazzaville une mémoire justement de l'implication des Africains dans la France libre, dans la libération de la France?
Je me rappelle à Brazzaville, on avait la rue Capitaine Tchorere, un officier gabonais qui a été fusillé par les Allemands. Mais des monuments vraiment pour se rappeler de ces Africains. Non, je n'en connais pas beaucoup. Je parlais du square de Gaulle, mais il n'y a pas un square dédié aux combattants africains.
Alors comment ça se fait d'après vous?
Mais est-ce que nous avons déjà fini d'écrire cette histoire du Congo? Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que cette histoire de l'Afrique avec la France sous la colonisation soit une histoire connue des faits, des événements qu'on doit retrouver dans les manuels d'histoire, des travaux de recherche menés par des chercheurs français ou européens en général. C'est pas seulement à nous d'écrire.
Est-ce que les Français connaissent que le Congo est la capitale libre de la France? Et c'est la question que j'allais poser. Oui, ça fait combien d'années que le général de Gaulle a déclaré le Congo comme étant capitale libre de la France? Mais aujourd'hui, là, ça ne se fait pas voir.
Très bonne question. En France, nous qui sommes champions de toute catégorie des monuments, en particulier pour ce qui est de la Première Guerre mondiale, rares, c'est vrai, sont ceux qui viennent rendre hommage aux Africains qui ont combattu aux côtés des Français en 14-18 et en 39-45. Dans les manuels d'histoire, beaucoup reste donc à faire, sans parler de l'inconscient collectif français sur la figure du résistant. Le silence, qui a longtemps entouré la période coloniale, y est certainement pour quelque chose dans ce retard. À Brazzaville, capitale de la France libre, c'était un reportage de Raphaël Constant. Merci à elle et à tous les intervenants qui ont bien voulu partager cette mémoire décidément commune. Ce voyage a été réalisé grâce au concours de l'Institut français du Congo. Céline Develay-Mazurel, Laure Allary, Raphaël Constant, on vous dit à la semaine prochaine et d'ici là, faites de beaux voyages à l'écoute de RFI.
Retrouvez Si loin, si proche, quand vous le souhaitez, en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur rfi.fr.